Chapitre 3. Le drame de la gare Saint-Lazare. La police sur les dents. Le garni de la rue Nollet. Un télégramme suspect. Dieudonné de Boué. Le notaire de Pontoise. Tragique confrontation. Le 27 février 1912, à 19h environ, place du Havre, une forte automobile qui dévalait à une allure folle la rue d'Amsterdam s'envolait brusquement au moment où elle traversait la place, heurtait la roue gauche de devant de l'autobus de Grenelle-Javel-Gare-Saint-Lazare qui venait de la rue Tronchet. Suivant le protocole usuel, le chauffeur de l'autobus se mettait à la vectiver, soit commieusement le conducteur de l'auto, qui, à n'en pas douter, était responsable de l'accrochage, lorsque survint l'agent Garnier. Après avoir fait dégager les deux volumes, véhicules, il ordonnait au chauffeur de l'auto de se ranger le long du trottoir, afin qu'il pût vérifier ses papiers. Mais le chauffeur, au lieu d'obtempérer, démarrait en vitesse et la voiture repartait à une allure excessive dans la rue du Havre, tandis que de la voiture partait tout un concert d'injures à l'adresse du gardien de la paix. Mais un camion, qui se dirigeait dans le sens inverse, barrait soudain la route aux fugitifs. L'agent Garnier en profitait pour se précipiter vers les délinquants. Le chauffeur, coiffé d'un chapeau melon et un jeune homme brun, placé à côté de lui, qui portait également un melon noir, recommençait à l'insulter copieusement. Alors l'agent, s'adressant à un voyageur très correctement habillé et complètement rasé, qui se trouvait à l'intérieur de la voiture, lui disait « Monsieur, je ne sais si vous êtes le propriétaire de cette voiture, mais je vous demande d'inviter votre chauffeur à plus de respect à mon égard. Je vous prie en même temps de me faire remettre sur le champ son permis de conduire et ses divers papiers. » Le voyageur demeura impassible. On eût dit qu'il n'avait pas entendu les paroles que lui adressait le gardien de la paix. Celui-ci se décida à demander secours à un de ses collègues, mais la voie étant dégagée, le chauffeur en profitait pour repartir à toute vitesse. Il ne devait pas aller loin. En arrivant à la hauteur du numéro 21 de la rue du Havre, il était obligé de freiner brusquement pour éviter un fiacre qui traversait la chaussée. Un cri de colère lui échappa. Le moteur s'était calé. Le jeune homme, qui était assis près de lui, sautait prestement à terre et, empoignant la manivelle, cherchait à remettre le moteur en marche. L'agent Garnier, qui avait rejoint en courant le véhicule, s'élançait sur le marchepied de droite et voulait mettre la main sur le volant. Mais de l'intérieur, un bras s'avançait vers lui et plusieurs détonations retentissaient. Atteint en pleine poitrine, le malheureux agent roulait sur le sol, tandis que l'auto grise filait à toute vitesse et disparaissait dans la rue Tronchet. Deux autres agents, qui étaient accourus, réquisitionnèrent une auto de maître qui stationnait devant un restaurant et s'élançaient à la poursuite des bandits, tandis que de tous côtés la foule criait « au secours à l'assassin !» La chance semblait s'ingénier à favoriser les bandits. En effet, boulevard Haussmann, alors que les poursuivants étaient sur le point d'atteindre l'auto des assassins, le chauffeur de l'auto poursuivante renversait une femme qui était grièvement blessée. C'était l'arrêt forcé. Les assassins en profitèrent pour prendre la fuite, filés cependant par un jeune soldat qui, sur sa bicyclette, fit tous ses efforts pour les rejoindre, mais ce fut inutile. Tout ce que l'on put apprendre par différents témoins, c'est que le bandit qui était à l'intérieur de la voiture devait être maquillé, car les témoins qu'il avait vus rue du Havre affirmaient qu'il était rasé, et ceux qu'il avait aperçus rue Royale déclaraient qu'il portait une forte barbe noire. On apprit également que la voiture qui portait le numéro 872X8 appartenait à M. Gustave Buisson, négociant à Saint-Mandé. Cette voiture avait d'ailleurs disparu de son garage depuis quelques jours. Cet exploit d'une audace extraordinaire, accompli en plein jour dans l'un des endroits les plus fréquentés de Paris, produisit un effet indescriptible. Pour tenir tête ainsi à la police, pour oser assassiner aussi lâchement et cyniquement un brave gardien de la paix, il fallait vraiment que ces gens fussent décidés à jouer jusqu'au bout de leur vie. Et tous se demandaient si la police parviendrait jamais à interrompre la série de leurs sanglants exploits. Or, le même jour, d'importants renseignements parvenaient de province à M. Guichard par l'intermédiaire de M. Sibille, contrôleur aux recherches à la Sûreté Générale. Le vendredi précédent, vers 9 h du matin, une superbe limousine Peugeot, montée par 5 hommes, correctement habillés et coiffés tous d'un chapeau melon, s'arrêtait à l'entrée de la petite ville d'Ardet-le-Duc. Un pneu de la roue droite arrière étant dégonflé et ayant roulé sur la jante pendant plusieurs kilomètres, cette roue était très détériorée et le véhicule était, pour ainsi dire, hors de service. Les 5 hommes sautaient à terre et demandaient à 2 jeunes filles le chemin de la gare. Et laissant là leur voiture, après avoir dit qu'ils reviendraient la réparer, ils s'enfuirent à la gare. Mais ayant appris là qu'il n'y avait pas de train pour Beaune avant 4 h du soir, ils s'enfuirent demander à un garagiste du pays, M. Monod, de les conduire dans cette ville. M. Monod accepta. Comme le soir, aucun des automobilistes n'était revenu vers la voiture abandonnée, le maréchal de logis de la gendarmerie décidait de la mettre en fourrière. Or, à sa grande stupéfaction, il constata que le véhicule ne portait aucune plaque indiquant l'adresse de son propriétaire. Le maréchal de logis télégraphiait aussitôt à la brigade mobile de Dijon le signalement de l'automobile, ainsi que son numéro 67A2 et le matricule du moteur. Et il apprenait que cette auto avait été volée à un industriel de Béziers, M. Malbec, dans la nuit du 15 au 16 février. Tout de suite, il interrogea M. Monod, qui déclarait qu'il avait descendu les 5 voyageurs à 2 h de l'après-midi à l'Hôtel de France à Beaune, et qu'après avoir pris un repas froid, ils étaient montés à 4 h 18 dans un train qui partait pour Paris et qu'ils avaient voyagé en 3e classe. Et M. Monod ajoutait « Oh, vous, ils ne m'ont pas parlé beaucoup. » Là, un grand rougeau, qui était le plus âgé de la bande et qui paraissait la diriger, m'a simplement dit « Nous excursionnons dans la région. L'accident qui est arrivé à notre auto nous contrarie fort, car 3 de mes amis sont obligés de rentrer à Paris. Quant à moi, je vais revenir avec un de mes compagnons pour la réparer. » Pendant le trajet, continuait M. Monod, celui qui avait été le plus loquace, le grand Rougeau, s'assit à côté de moi et consulta à plusieurs reprises un indicateur de chemin de fer. Ses 4 compagnons, assis dans le baquet arrière, s'entretinrent à voix basse. Je dois dire qu'à Beaune, c'est un de mes amis portant beau qui me régla le prix de ma course. Et comme on lui demandait de donner quelques détails supplémentaires sur le signalement des 5 voyageurs, M. Monod dit « Oh, je n'ai pas bien regardé sur tout ce qui était derrière moi. C'est surtout avec le grand Rougeau que j'ai eu en affaire. Ce que je puis vous dire, c'est qu'il avait le nez Camus et le front très bombé. » Et comme on mettait sous les yeux de M. Monod la photo de Monod, le garagiste s'écriait « Oh, il n'y a pas de doute, oh, c'est bien lui !» Les 2 jeunes filles et plusieurs passants qui avaient vu les 5 bandits furent non moins convaincus et unanimes à reconnaître le misérable. Maintenant, la police n'avait plus l'ombre d'un doute. La piste Monod, Garnier et compagnie était la bonne. En attendant de mettre la main sur ces bandits et leurs compagnons, Monsieur Jouin, le sous-chef de la sûreté, qui n'avait pas cessé un seul instant de fouiller tous les milieux suspects ou des endroits de pensée que se cachaient les malfaiteurs auxquels il donnait la chasse, possédait le 28 janvier 1912 à l'arrestation de deux anarchistes nommés Deboué et Dieudonné, qui dirigeaient immédiatement sur le dépôt. Comment l'attention de la police avait-elle été attirée sur ces deux personnages? Nous allons le dire en quelques mots. Dès le début du mois de décembre, un jeune homme se donnant pour un industriel de Belfort, nommé Jules Comtesse et âgé de 24 ans, louait une chambre dans une pension de famille de la rue Nollet. C'était un homme brun, de taille moyenne, correctement habillé, mais aux allures quelque peu mystérieuses. Vers la fin du mois, il déclarait à ses logeurs qu'il allait retourner à Belfort et il leur annonçait qu'un de ses amis, industriel comme lui, viendrait d'ici peu de sa part leur demander une chambre. En effet, le 13 décembre, un second jeune homme de 27 ans, de taille élevée, la lèvre surmontée de fines moustaches brunes, se présentait avec une jeune femme à la figure goêleuse, aimable et séjournant dans la pension jusqu'au 12 janvier pour y revenir le 7 février. Les allées et venues n'avaient pas échappé au service dit dégarni qui avait signalé au directeur de la sûreté parisienne les deux mystérieux personnages. Deux inspecteurs furent chargés de les filer. Ils ne tardèrent pas à acquérir la preuve qu'ils appartenaient à un groupement anarchiste. Coubertin n'était autre qu'un certain Dieudonné et mécanicien, âgé de 27 ans, que l'on soupçonnait depuis quelque temps d'avoir participé à l'attentat de la rue Ordonneur. Ils apprenaient également que sa femme, ou plutôt sa compagne, était une certaine Louise Kaiser, connue dans les milieux anarchistes sous le nom de la Vénus Rouge. En outre, il réussissait à identifier un individu qui, à plusieurs reprises, était venu rendre visite au pseudo-ménage Aubertin. C'était un nommé Paul Deboué, d'origine belge, âgé de 25 ans, typographe, collaborateur de plusieurs journaux anarchistes. Enfin, les détectives acquérait la certitude qu'Aubertin, la nuit précédente, n'était rentré que vers 4 heures du matin. Or, c'était précisément cette nuit-là que 2 heures plus tôt, trois individus avaient fracturé à Saint-Mandé le garage de M. Buisson et emmené son automobile. La police établit une souricière autour de la pension de famille où logeaient Aubertin et sa femme. Le matin, vers 8 heures, elle laissait Paul Deboué pénétrer dans la maison et monter chez Aubertin, avec lequel il avait une conversation aussi longue que mystérieuse. Pendant ce temps, un télégramme étrange arrivait à l'adresse d'Aubertin. Monsieur Jouin le saisissait chez la logeuse. Il était daté d'Alais, ville du département du Gard, et contenait ces simples mots « Notre mère est en bonne santé ». La trouvaille était précieuse. En effet, depuis quelque temps, la Sûreté Générale avait acquis la certitude que les bandits tragiques se préparaient à commettre un attentat dans cette ville. Il n'y avait pas à hésiter. Monsieur Jouin patiemment attendit que Paul Deboué reparût. Ce ne fut que vers midi qu'il sortit de la pension de famille. Monsieur Jouin, flanqué de ses deux inspecteurs, le laissa remonter la rue Nollet et gagner l'entrée de l'avenue de Chantilly du Clichy. Il adressa alors un simple signe à ses deux inspecteurs, Messieurs Maes et Guillaume, qui se précipitèrent sur l'anarchiste et l'empoignèrent au collet. Paul Deboué eut le geste de porter les mains à ses poches, qui, ainsi qu'on devait le constater plus tard, renfermaient deux pistolets automatiques chargés de balles blindées. D'un croc en jambe, il parvint à renverser M. Maes. Mais M. Guillaume, d'un mouvement brusque, rabattait en arrière le veston du Belge, tandis que M. Jouin et lui l'entraînaient dans un taxi qui prenait immédiatement la direction du quai des Orfèvres. À 14h30, Aubertin quittait la pension de famille. Il était aussitôt arrêté, presque sans résistance, et prenait la même direction que son ami. Le soir, vers 18h, M. Jouin, qui était revenu rue Nollet, procédait à une perquisition. Il découvrait deux pistolets automatiques, un casse-tête en caoutchouc, un sac en toile cachou qui avait dû contenir de la monnaie et différents itinéraires routiers, établis en vue d'échapper, en passant, les frontières aux visites de la douane. Mais on ne trouva aucun papier compromettant. M. Jouin n'en procédait pas moins à l'arrestation de la compagne d'Aubertin, c'est-à-dire Louise Kaiser, et d'une certaine Madame Bouchet, femme d'un typographe, qui passait pour professer des opinions violemment anarchistes et dont les démarches étranges et les visites répétées avaient déjà éveillé les soupçons des inspecteurs chargés de l'enquête. Immédiatement, le juge d'instruction Gilbert procédait à un premier interrogatoire des quatre nouveaux prisonniers. Ceux-ci répondaient à ces questions par des dénégations extrêmement énergiques et Dieudonné, dit Aubertin, affirma son innocence avec une véhémence singulière. Mais des charges trop fortes pesaient sur lui et le juge d'instruction estimait à juste titre que ses protestations n'étaient pas suffisantes pour ordonner sa mise en liberté immédiate. Ces arrestations avaient donné un commencement de satisfaction à l'opinion publique qui espérait que maintenant qu'il se sentait traqué, les bandits allaient se montrer moins audacieux et mettre un terme à tous leurs sinistres exploits. Il n'en fut rien. La nuit même, un nouvel attentat, dépassant peut-être encore l'audace de tous les précédents, allait littéralement affoler la paisible et charmante petite ville de Pontoise. L'étude de Maître Tintan, notaire, était située place de l'Hôtel de Ville et installée dans un bâtiment qui communiquait directement par une porte latérale à la maison principale qu'habitait son propriétaire. Vers 3 heures du matin, Madame Tintan, dont la chambre à coucher était située au premier étage de l'immeuble, était réveillée par des grincements qui semblaient provenir du rez-de-chaussée. Après avoir écouté pendant quelques instants et entendu comme un bruit de pas sur le plancher de l'étude, elle réveillait son mari et lui disait « Vous direz qu'il y a quelqu'un en dessous ?» Après avoir écouté à son tour, M. Tintan s'écriait « Oh, en effet, on dirait bien que l'on marche en bas !» Et se levant aussitôt, sans faire de bruit, il s'empara de son revolver, ouvrit brusquement la fenêtre, les volets, se pencha et regarda en dehors. La place était déserte. Cependant, il remarqua tout de suite une automobile qui stationnait sans conducteur à quelques mètres de chez lui. Au même instant, un passant apparut. C'était un garçon boulanger de Saint-Ouen-l'Aumône, nommé Albert Coquerel, qui, son labeur terminé, regagnait son domicile du boulevard des Fossés. « Voulez-vous, lui demandait M. Tintan, avoir l'obligeant de regarder si mon étude est fermée? Il m'a semblé entendre du bruit de ce côté-là. » Complaisamment, M. Coquerel s'enfuit vers la porte, appuya sur le loquet et, constatant que la porte cédait, il s'écria « Mais c'est ouvert !» De l'intérieur, une poussée contre la porte lui indiqua qu'on cherchait à l'empêcher d'entrer. Effaré, le garçon boulanger criait de toutes ses forces « Au secours !» Au même instant, deux détonations retentissaient, et de l'intérieur de l'étude, deux balles, trouvant la glace de la porte, sifflaient à ses oreilles. Immédiatement, M. Coqueret prenait la fuite et allait se cacher sous la porte d'un magasin placé à quelques numéros plus loin. À peine avait-il disparu dans la nuit que la porte de l'étude s'ouvrait, livrant passage à trois hommes qui se précipitaient vers l'automobile arrêtée près de là. M. Tintan faisaient feu dans leur direction, mais sans les atteindre, et les bandits, se retournant, lui ripostèrent par un véritable feu de mousqueterie. Tandis que l'un d'eux, tranquillement, remettait le moteur en marche, ses compagnons rejoignaient et sautaient dans l'auto. Le chauffeur, sortant à son tour son pistolet automatique, tirait une dernière balle dans la direction de M. Tintant, qu'un projectile précédent avait légèrement blessé au-dessus de l'oreille droite. Mais cette fois, il ne fut pas atteint. Le bruit de la fusillade avait réveillé tous les voisins. L'un d'eux, M. le baron, avait, à travers ses persiennes, assisté à la fuite des misérables. D'autres, M. Bray et ses fils, commerçants établis près de là, les avaient vus également, ainsi que M. Aubet, qui avait vu l'auto prendre un virage devant sa porte et se fondre dans les ténèbres. Tous furent unanimes à déclarer que s'ils ne pouvaient préciser la couleur de la voiture, ils étaient certains que c'était une limousine au capot très allongé. Quant à M. Coqueret, qui de sa cachette improvisée avait assisté au départ des bandits, il affirmait qu'ils étaient tous trois vêtus de vestons sombres et de chapeaux melons. Il fut facile de reconstituer tout de suite la façon dont les bienfaiteurs s'étaient introduits dans l'étude. Profitant que la place était déserte, ils s'étaient faufilés jusqu'à un mur qui bordait une courette et avaient jeté par-dessus le faîte un câble de 5 mètres qui leur avait servi pour escalader la clôture. Une fois dans la courette, ils fracturaient une petite porte, pénétraient dans l'étude, s'enfermaient au verrou afin d'éviter toute surprise et se mettaient à la recherche du coffre-fort. Et c'est à ce moment-là que Madame Tintant, entendant du bruit, avait réveillé son mari et on sait le reste. Le lendemain matin, vers 5 heures, à Saint-Ouen, un boulanger de la rue des Restets, M. Millois, qui était en train d'ouvrir sa boutique, entendait tout à coup le ronflement d'un moteur et apercevait une forte limousine grise au capot allongé qui marchait au ralenti et semblait venir de la rue Voltaire. Le siège était occupé par 2 hommes, le chauffeur et un autre individu assez bien mis et coiffé d'un melon noir. Comme ce dernier promenait autour de lui un regard méfiant, M. Millois dit à son porteur de pain qui venait prendre son service « Dieu, une automobile grise! Pour que ce ne soit pas encore l'auto des assassins de la rue du Havre qui vient de se promener par ici !» Mais l'auto avait déjà disparu. Quelques instants après, des maçons qui passaient près de la rue Pierre-Curie se trouvaient tout à coup devant une limousine en flammes dont aucun voyageur ne semblait s'occuper. Un employé d'un garage voisin accourait aussitôt, ainsi que le patron d'un café, et tous deux, à l'aide de seaux d'eau, réussissaient à éteindre l'incendie qui avait déjà très sérieusement endommagé la carrosserie. Convaincus que c'était l'automobile des bandits de la rue du Havre qu'ils avaient sous les yeux, ces braves gens prévenaient aussitôt la police, et M. Xavier Guichard, alerté par un coup de téléphone, se rendait dans le plus bref délai à Saint-Ouen. Il emmenait avec lui M. Buisson, le propriétaire de la voiture récemment volée à Saint-Mandé, et bien que le numéro d'arrière eût été changé, M. Buisson reconnaissait immédiatement sa limousine. On retrouvait même à l'intérieur un pardessus de chauffeur et une paire de gants qui lui appartenaient. M. Xavier Guichard recueillait ensuite le témoignage d'un maçon, M. Protier, qui en passant rue des Rosiers s'était presque heurté à l'angle de la rue Pierre-Curie à 3 personnages qui s'efforçaient visiblement de dissimuler leur visage. M. Protier put cependant donner le signalement suivant. Bon, le premier était revêtu d'un pardessus gris foncé avec col d'astrakhan et était coiffé d'une casquette. Le second, un peu plus grand, était vêtu d'un veston de bonne coupe et coiffé d'une casquette de chauffeur. Le troisième, de très haute taille, était également un veston et était coiffé d'un chapeau melon. Ces signalements étaient immédiatement transmis dans toutes les directions. Mais, malgré la diligence des inspecteurs dans ces eaux trousses des misérables, aucune arrestation n'était opérée. Les bandits couraient et allaient courir encore. Néanmoins, M. Gilbert, avec une opiniâtreté insatiable, continuait son enquête. Tous les inculpés, s'obstinant dans leur système de défense, c'est-à-dire niant formellement d'avoir pris la moindre part, ni directement ni indirectement, aux attentats commis par Bonneau, Gradier et consorts, le juge d'instruction décidait de confronter le garçon de recette Caby avec Dieudonné. Le 5 mars 1912, M. Caby, qui allait beaucoup mieux et qui avait quitté l'hôpital, arrivait au palais vers 1 h de l'après-midi. Sa femme l'accompagnait, ainsi que M. Chevassu, directeur de la succursale à laquelle il appartenait. M. Caby était encore très changé, et on lisait sur son visage qu'il souffrait encore de sa blessure. Il semblait en outre très ému à la pensée de se trouver tout à l'heure en face de ses agresseurs, et notamment de celui qui avait failli le tuer. M. Gilbert commença par le réconforter en quelques mots empreints de la plus vive bienveillance. Puis il pria le témoin de relire avec attention le procès-verbal qui relatait le signalement qu'il avait donné de son agresseur, et après l'avoir engagé à rassembler encore tous ses souvenirs, il lui dit « Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer combien votre réponse est importante. Si vous n'êtes pas absolument sûr de votre mémoire, dites-le, franchement. » Le greffier lui donna alors lecture de sa déposition. Et M. Gaby, qui l'avait écouté avec la plus grande attention, affirmait « Oui, je persiste dans mes déclarations. J'ai conscience d'avoir tracé un portrait fidèle du bandit. » Alors le juge faisait entrer dans son bureau 6 hommes, tous de même taille, c'est-à-dire un peu au-dessus de la moyenne, également bruns et portant la moustache, et tous vêtus de longs par-dessus au col relevé et coiffés de casquettes. 5 d'entre eux étaient des inspecteurs du service de la sûreté, dont la taille, la physionomie, les allures et la tenue vestimentaire rappelaient celle de Dieudonné, qui n'était autre que le 6e personnage du groupe. Sur un signe du juge, ils s'en vinrent tous se placer sur un rang en face de M. Gaby, et bien éclairé par la lumière qui provenait directement d'une haute fenêtre. « Monsieur Gaby, reprenait le magistrat, veuillez me dire si, parmi les hommes, vous reconnaissez celui qui a tiré sur vous ?» Troublé, bouleversé même, M. Caby, qui sentait toute la responsabilité qu'il allait prendre, promena lentement ses yeux sur les 6 hommes alignés devant lui. Puis, sans la moindre hésitation, touchant du doigt la poitrine de Dieudonné, il s'écriait « Oh, c'est lui! Oh, c'est bien l'homme qui a tiré sur moi! Je le reconnais, c'est lui !» Avec un calme extraordinaire, Dieudonné répliquait « Vous mentez, ou plutôt vous faites erreur. Je ne suis pas l'homme que vous dites, mais je ne vous en veux pas. Vous regretterez un jour de m'avoir accusé à la légère, car j'ai l'alibi dont on ne tardera pas à reconnaître exact. » Blanc comme un linge, M. Caby répliquait « Mais c'est vous, je reconnais vos yeux. » Successivement, M. Gilbert et M. Beauchamp, défenseurs de Dieudonné, faisait observer au témoin toute la gravité de son accusation. Était-il bien certain de ne pas se tromper? Solennellement, le juge ajoutait, faisant preuve ainsi d'une haute conscience de son devoir, « J'allie de la tête de cet homme, Monsieur Gaby. Je vous adjure de bien réfléchir et de vous demander si vous n'êtes pas l'objet d'une singulière ressemblance. » Mais l'enquêteur, les yeux fixés sur ceux de Dieudonné, persistait à affirmer « Mais je reconnais cet homme !» Haussant dédaigneusement les épaules, Dieudonné, sans se départir de son sang-froid, s'écriait « Mais cela devient complètement grotesque. Jour de l'attentat de la rue Randonneur, j'étais à Nancy. » M. C'est lui, mais c'est lui! Continue à scander l'encaisseur avec un accent de conviction indéracinable. Avec cette grande impartialité qui l'a toujours caractérisé, Monsieur Gilbert faisait observer. Monsieur Gabi, vous nous avez déjà déclaré reconnaître pour votre agresseur un certain Octave Gardier, dont je vous avais présenté la photographie. Vous m'avez même dit, il n'y a pas à tortiller, ce sont bien là les yeux que j'ai vus, je les reconnaîtrai entre 100. Et comment conciliez-vous cette première déclaration avec celle que vous venez de me faire? Monsieur Gabi répliquait. Monsieur le juge, on m'a bien montré en effet une photo de Garnier. J'ai tout de suite dit que c'était le portrait de mon agresseur. C'était une bonne foi, mais je me trompais. Maintenant, je ne puis pas faire erreur, car ce ne sont pas seulement ses yeux que je reconnais. C'est aussi son teint basané, ses cheveux un peu longs, et puis ce regard, ce regard. Mais c'est lui, je dis que c'est lui. Je me rappelle très bien, c'est lui qui m'a arraché ma sacoche. Mais Monsieur Gabi, épuisé, chancelait, et le juge décidait de mettre fin à la confrontation. Dès qu'il se fut retiré, Monsieur Gilbert déclarait à Dieudonné. Vous avez invoqué tout à l'heure un alibi. Maintenant, il va falloir fournir l'emploi de votre temps, le 20 et le 21 décembre. Très volontiers, répliqua l'inculpé. Et avec cette parfaite maîtrise de lui-même, qui ne devait jamais l'abandonner, Dieudonné déclarait. Le 20 décembre, j'étais à Nancy. J'ai dîné chez des amis et je me suis attardé chez eux où j'ai discuté politique. Le 21, je me suis rendu aussitôt chez un ébéniste de cette ville pour lui demander du travail. J'ai passé près de ma mère les journées des 22, 23 et 24. Le 25, je suis rentré à Paris. Un ami, que je ne connais que sous le nom de Jules, m'a indiqué la maison meublée dans la rue Nollet. Je suis allé loger pendant 20 jours. Je n'ai fait aucune absence, pas même jour pour me rendre à Alais, ainsi que certains l'ont insinué. En quittant la rue Nollet, je suis reparti pour Nancy en compagnie de ma femme et de mon enfant. C'est quelques jours avant mon arrestation que je suis revenu à Paris. Monsieur Gilbert lui objectait. Et ce télégramme expédié d'Alais ainsi conçu, ce soir notre mère se porte bien. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'y comprends rien, affirmait Dieudonné. Il s'agit certainement d'une fumisterie dont je ne puis soupçonner l'auteur. Et si c'était Garnier, Karoui ou Bonneau? Oh, je connais aucun d'eux. Monsieur Gilbert poursuivait. On a saisi chez vous, rue Nollet, un bulletin de bagages établissant le dépôt d'une valise à la consigne de la gare du Nord. Cette valise était à vous? Non, un ami qui m'avait parié d'aller la prendre. On y est allé pour vous, révélait le magistrat. Et on a constaté que cette valise contenait plusieurs outils tels qu'on emploie les voleurs professionnels. Cette assertion ne sembla nullement démonter Dieudonné, qui se retira après avoir affirmé une dernière fois, et toujours sans la moindre véhémence, mais avec un accent profond. Monsieur le juge, vous faites fausse route. Vous avez devant vous un innocent. Chapitre 4. Un grand juge d'instruction. Dieudonné se prétend innocent. Sur les traces de Bonneau, une émouvante interview, une belle filature, les titres volés, Garnier menace. Immédiatement, M. Gilbert procédait à la vérification de l'alibi invoqué par Dieudonné. Une enquête très serrée était faite aussitôt à Nancy. Tandis que la police enquêtait, un reporter du journal Le Matin se rendait chez la mère de Dieudonné, qui habitait une pauvre petite maison du faubourg de Boudonville. C'était, nous rapporte-t-il, une vieille et triste femme, tout égarée par le malheur et les événements de ses jours passés. D'une main tremblante, elle me montra, dans l'humble demeure, le lit qu'occupait naguère son fils, et dans lequel aujourd'hui l'enfant de l'inculpé, le petit Pierre, grelottait de fièvre devant sa grand-mère désespérée. Madame Dieudonné faisait à notre confrère les déclarations suivantes, qu'elle devait d'ailleurs renouveler devant la justice. « Je sais que mon fils est innocent. Je sais qu'il était à Nancy le 21 décembre, lorsqu'il abandonna le chantier de M. d'Artois, son patron. Il va habiter chez moi, et j'en fais le serment, sur la tête de ce petit innocent. Pas une nuit ne s'absenta jusqu'au jour de Noël, où il partit pour Paris à 7h35 du matin. Je jure qu'il a pris, durant toute cette semaine, tous ses repas à la maison, là, sur cette table. Vous en fournir la preuve, non, je ne peux plus, mais mes souvenirs sont imprécis, je ne trouve pas, je ne puis que pleurer. » D'autre part, le parquet de Nancy, chargé par une commission rogatoire de recueillir les témoignages des voisins de Madame Dieudonné, ne recevait aucun renseignement capable de contrôler utilement l'emploi du temps de l'inculpé pendant la semaine qui précéda les fêtes de Noël. Cependant, un ancien, M. Voltrom, déclara qu'il avait vu Dieudonné à Nancy le jeudi 21 décembre, entre 4 et 5 heures de l'après-midi. Dans ce cas, il aurait fallu admettre, pour que Dieudonné participât à l'attentat de la rue Ordonnaire, qui se trouva à Paris à 8 heures du matin et qu'il prit le rapide de 9 heures à la gare de l'Est pour Nancy. En outre, M. Vaster déposait que le 21 décembre, il avait rencontré à 1 heure de l'après-midi, faubourg Stanislas, Dieudonné, et que celui-ci lui avait réclamé une chaîne de montre qu'il lui avait promis de lui procurer. Madame Reiner témoignait que Dieudonné avait assisté avec son mari et elle à une messe de minuit célébrée dans l'église Saint-Évré. Enfin, le patron de l'inculpé, M. d'Artois, entrepreneur, déclarait: « Bon, j'ai Dieudonné, dit-il, était mon meilleur ouvrier. Je l'entends dans tous les sens, habile, sobre, laborieux et honnête. Ce sera le plus grand étonnement de ma vie d'apprendre, si j'en ai quelque jour la certitude, que ce jeune homme est un criminel. Toujours, j'ai à me féliciter de sa collaboration. Il exécutait pour moi, à Longlaville, près de Longwy, des travaux difficiles. » Et vers la fin de novembre dernier, il m'annonça que son petit enfant étant malade, qu'il allait le voir à Paris. Il resta absent pendant 2 semaines environ, et le 7 décembre, il reprit son travail sur mon chantier. Le 18 du même mois, dans la soirée, il vint à Nancy, ayant achevé sa besogne, et après m'avoir reçu son salaire, 242 francs, il me quitta sans m'indiquer le motif de son brusque départ. Mais je ne l'ai plus revu. Ajoutons que M. et Mme Cuisinière, le père et la mère de Mme Dieudonné, se portèrent garants de l'innocence de leur gendre. Mais M. Gilbert ne se contentait pas de ces témoignages. Il tenait avant tout à élucider le mystère contenu par l'étrange dépêche que Dieudonné avait reçue d'Alais. Sur mandat de lui, M. Caslari, commissaire central au contrôle de la Sûreté Générale, et Ottavi, commissaire central d'Alais, se livraient dans cette ville à de très actives recherches. S'il leur avait été impossible de découvrir l'identité de l'expéditeur de la dépêche, ils étaient enfin néanmoins arrivés à établir que 2 anarchistes parisiens, nommés Renard et Simintoff, était venu quelque temps auparavant à Alais et s'était mis en relation avec quelques libertaires de cette ville. Ceux-ci, interrogés, affirmaient qu'ils ne connaissaient ni Simintoff, ni Renard, ni Caroui, ni Dieudonné, ni Garnier, et qu'ils ne croyaient pas que ces hommes fussent jamais venus à Alais. Cependant, 2 tentatives criminelles qui avaient été commises quelque temps auparavant, l'une à Saint-Jean-du-Regard et l'autre à Venezobre, semblait indiquer, à la façon dont les malfaiteurs s'étaient introduits dans les habitations qu'ils cherchaient à dévaliser, et surtout par le fait qu'on les avait vus passer en automobile, qu'il y avait une corrélation entre ces manifestations et l'attentat de la rue Ordener. Aussi les deux magistrats poursuivaient-ils leur enquête avec une louable obstination, et grâce à leur ténacité à leur adresse, ils finissaient par conquérir la certitude que Cibinto avait été vu à Alais le jour où le télégramme avait été expédié à Dieudonné. Pendant que le commissaire de police, à la tête d'agents et de gendarmes, fouillait sans succès les débits de boissons, M. Casalari et M. Ottavi se rendaient chez un nommé Sazi, lampiste à la gare du PLM, et qui avait reçu le jour précédent de mystérieux visiteurs. Ils espéraient y trouver Cibinto, mais celui-ci avait disparu. L'employé du PLM, qui professait ouvertement une opinion anarchiste, commença par le prendre de très haut avec les représentants de l'autorité. Mais ceux-ci se livraient à son domicile à une perquisition en règle, et y découvrirent un nombre assez considérable de rasoirs et de flacons d'odeur dont le lampiste devait expliquer la provenance. Son arrestation et celle de sa femme étaient immédiatement décidées, et ils étaient aussitôt écroués à la prison d'Alais. Interrogé par le commissaire de police, Sazi reconnut qu'il connaissait Simantov et qu'il lui avait même donné l'hospitalité pendant quelques jours. Il prétendit que, fidèle à ses doctrines, il ne lui avait demandé aucun renseignement. Il déclara que lorsqu'il avait appris que Simantov était recherché par la police, il l'en avait averti et aidé à s'enfuir. Madame Sazi ne put qu'appuyer les déclarations de son mari, et tous deux furent remis à la disposition du juge d'instruction, qui les inculpa aussitôt de vol et de recel de malfaiteurs. Le lendemain, M. Kussalard découvrait chez le lampiste du PLM un recueil de discours anarchistes écrits de la main même de Stimentov. Confronté avec l'origine du télégramme, Aubertin, l'écriture apparut visiblement la même. D'autre part, d'après l'excellent magistrat, il semblait a priori que Sazi n'eût été qu'un agent irresponsable entre les mains des camarades peu scrupuleux. Il fut établi en effet que les parfums et les rasoirs que l'on avait retrouvés chez lui avaient été volés par Cibinto à un commerçant de la région. Malgré tout, il était maintenu, ainsi que sa femme, en état d'arrestation. Cependant, Cibinto demeurait insaisissable et échappait aux recherches de tous les limiers lancés à sa poursuite. Mais M. Gilbert n'allait pas tarder de faire une découverte intéressante. Ayant convoqué à son bureau Mme Rollet, la propriétaire de la maison de la rue Nollet, qui avait servi d'asile à Dieudonné et auparavant à un certain comtesse, il mettait sous les yeux de la logeuse la photo de Bonneau. Madame Rollet n'hésitait pas à reconnaître en celui-ci le pseudo-industriel comtesse. D'autre part, on retrouvait la femme du dit Bonneau qui vivait très retirée en Annemasse, près de la frontière suisse. C'était une femme encore jeune et belle, mais dont la figure était ravagée par le chagrin. Elle travaillait courageusement à faire des lainages pour gagner sa vie et celle de son enfant, chétif et trop grand pour son âge. « J'ai connu Bonneau, » disait-elle à l'envoyé du matin, « oh, il y a 10 ans. J'avais 19 ans à peine, il en avait 26. J'étais jeune et trop confiante. Il exerçait alors le métier de mécanicien et j'eus le grave tort de croire à ses serments. » Natif du Doubs, issu d'une très honorable famille, il demanda ma main à mes parents, qui la lui accordèrent. Notre lune de miel dura 3 ans, 3 brèves années qui passèrent furtivement comme un songe, et peu après je connus les aves de la trahison, la brutalité révoltante du malheureux à qui je m'étais donné. Il n'aimait pas le travail et n'avait qu'une seule passion, l'argent. Il aurait tout fait pour en avoir. Il avait de déplorables fréquentations et partout où il nous mena, mon fils et moi, à Genève, à Neuve-Maison, où habitent son frère et sa sœur, à Lyon, il ne se frayait qu'avec des anarchistes déjà sans aveu qu'il entretenait dans la paresse et le poussait au mal. Sa mauvaise conduite et surtout son caractère violent et querelleur lui firent perdre toutes les places. Il ne pouvait rester une semaine entière chez la même patronne. Dans ses rares moments d'expansion, il me confiait « Que veux-tu, j'ai perdu mon père si jeune, ma mère, je n'ai jamais su de famille. C'est ce qui m'a rendu sauvage et méchant, faut me pardonner. » Je passais sur bien des choses, monsieur, mais à la fin, je n'y pus plus. Je me révoltais. Il y a 5 ans, je le quittais en emmenant mon fils, le petit Justin, qui n'a jamais aimé, pour qui ne m'a jamais envoyé un sou. Et au moment où je demande le divorce, il me confia, les yeux fous de colère. « Je ne suis pas encore qui je suis, tu ne le sais pas, tu le sauras bientôt. J'ai déjà fait de la prison. Il m'a déshonoré, il a déshonoré mon fils. Il y a 5 ans que je l'ai revu le misérable. Je vous assure que je ne cherche pas à le retrouver. Je l'ai oublié, je l'ai retranché de ma vie. » Et lui ai-je demandé, « A-t-il voulu vous revoir ? Vous a-t-il écrit ?»« Jamais, monsieur. Voici 5 ans que je suis en instant de divorce. Comme c'est long !» En attendant de mettre la main sur Bonneau, qui aux yeux perspicaces de M. Gilbert devait être le chef des bandits tragiques, l'attention des enquêteurs était attirée sur un personnage assez mystérieux. Celui-ci était employé jadis comme maître de laboratoire dans une pharmacie aujourd'hui disparue de la rue Saint-Lazare, et qui venait effectuer souvent des livraisons dans un immeuble voisin dont Mme Rollet était alors concierge. Il s'était souvent attardé à causer avec elle de la pluie et du beau temps, des événements du jour. Il prétendait s'appeler David, sans donner toutefois le moindre renseignement sur son passé et sur ses parents. Quel ne fut pas l'étonnement de Mme Rollet, qui, après avoir quitté la loge de la rue Saint-Lazare, était venu prendre la direction de la maison meublée de la rue Nollet, en voyant un jour se présenter à elle le jeune droguiste qu'elle n'avait pas rencontré depuis plusieurs années. Il lui raconta qu'il avait beaucoup voyagé, fait presque le tour du monde et qu'étant revenu à Paris, il avait tenu à lui dire bonjour. Madame Rollet lui fit le meilleur accueil et lui demanda de lui envoyer des clients. « Je n'y manquerai pas, » répliqua David. « Précisément, un de mes amis industriels à Belfort, M. Comtesse, doit venir à Paris d'ici peu, et je vais lui recommander de venir loger chez vous. Je vous parle de le soigner et de lui donner une de vos meilleures chambres. » Ainsi qu'on le sait déjà, David n'avait pas bluffé. Quelques jours après le départ de ce dernier, Madame Veuve Rollet voyait réapparaître David qui lui disait « Le comtesse est en ce moment sur la côte d'Azur. Il vient de m'écrire d'aller prendre chez vous les bagages qu'il y a laissés. » Comme comtesse ne devait rien à sa propriétaire, celle-ci laissa l'ancienne aide de laboratoire, qu'elle estimait beaucoup, emporter les objets réclamés par son ami. Et à partir de ce moment, elle ne devait plus les revoir, ni l'un ni l'autre. Il apparut intéressant à M. Xavier Guichard de savoir quel était ce mystérieux David, et il lança aussitôt plusieurs de ses limiers à la recherche. Comme ceux-ci en possédaient un signalement très exact et très détaillé, ils arrivèrent assez promptement à le repérer un jour au boulevard de Clichy, en compagnie d'un individu aux allures plutôt inquiétantes. Les inspecteurs les prirent en filature. Ils les suivirent jusqu'à un hôtel situé au numéro 3 de la rue Belhomme, non loin du boulevard Barbès. Là, un des hommes entra dans l'hôtel et l'autre regagna un autre hôtel situé rue Jouy-Noronny à Belhommeville. On apprenait alors que le personnage qui était entré rue Belhomme et qui y était arrivé le 18 janvier dernier, sans bagage, s'était fait inscrire sous le nom d'Alphonse Lecoq, né à Lille, représentant de commerce, âgé de 32 ans. Il menait une existence des plus irrégulières. Il vivait seul, ne recevait personne. Il avait cessé de payer sa chambre la semaine depuis le 1er mars, et qu'il avait demandé à faire ce versement chaque jour. Mais ce jour même, les inspecteurs de la sûreté, chargés de le pister, perdaient sa trace. Véritablement, la police jouait de malheur. Mais elle allait être plus heureuse avec le second individu qui avait été pisté jusqu'à l'hôtel où il demeurait à Belleville. Les agents de M. Guichard découvraient qu'il s'y était fait inscrire sous le nom de Breuil, âgé de 25 ans, employé de commerce. À la suite d'une habile filature à laquelle avait pris part M. Join en personne et l'inspecteur Colmar, limier excellent et fort redouté des malfaiteurs, le pseudo Breuil était aperçu un jour, boulevard Rochechouart, en grande conversation avec un individu qui n'était autre que le prétendu Alphonse Lecoq, disparu depuis le 5 mars. Les inspecteurs, chargés de le suivre, le virent s'engager dans la rue de Dunkerque, vers la gare du Nord, se rendre au bureau de la consigne des bagages et y déposer un paquet noir. De là, il se rendait boulevard de la Villette, où il y avait une fête foraine, s'offrait plusieurs tours de manège, s'en allait exercer leur adresse à un tir à la carabine. Pendant toute la journée, les limiers de M. Guichard ne lâchèrent pas d'une semelle les deux personnages, et au cours d'une conversation surprise dans un café boulevard de la Chapelle, ils crurent comprendre qu'ils avaient l'intention de retirer le lendemain le paquet noir qu'ils avaient laissé à la consigne de la gare du Nord. Dès le lendemain au matin, à la première heure, plusieurs inspecteurs dissimulés dans le bureau de la consigne voyaient bientôt un homme se présenter, remettre à l'employé son bulletin, en échange duquel on lui remit son colis. Cette fois, la piste était bonne. C'était bien le pseudo David qui était là. Comme il allait s'éloigner, les policiers s'élancèrent vers lui et l'empoignèrent par le bras. « Mais que me voulez-vous » dit-il en pâlissant. « Vous commettez sûrement une erreur. » Cependant, il se laissait emmener sans aucune résistance. Tandis que son compagnon, Alphonse Lecoq, qui avait pris un billet pour Lille, montait dans le train, sans se douter un seul instant que son camarade venait d'être arrêté. David était immédiatement conduit dans le bureau de M. Guichard, qui le sommait de lui révéler sa véritable identité. « Vous n'y songez point » s'écria-t-il. « Vous m'avez arrêté, je n'ai rien à craindre. C'est à vous d'établir qui je suis. » Mais M. Join et M. Colmar, qui avaient ouvert le paquet noir, y découvraient un lot d'obligations, de titres et de valeurs, qui, vérification faite, provenaient du vol commis rue Ordonnère sur la personne du garçon de recette Cabi. « Et d'où proviennent ces valeurs ?» demandait M. Guichard à David. Sans se démonter, le moindrement, celui-ci répliquait. Bon, « C'est un de mes amis qui, hier, m'a confié ce paquet pour que j'aille le déposer à la gare du Nord. J'ignorais ce qu'il contient, je ne puis vous dire autre chose. » Il refusa obstinément de donner son état civil. Mais M. Xavier Guichard n'allait pas tarder à apprendre que l'inculpé s'appelait David Belloni, qu'il était originaire de Chignac, dans le Lot, qu'insoumis à la loi militaire, il avait déjà subi plusieurs condamnations, soit en France, soit à l'étranger. Après avoir quitté la pharmacie de la rue Saint-Lazare, il s'était rendu en Belgique où, en juin et en août 1907, il avait été poursuivi pour vagabondage spécial et port de faux noms. Expulsé de Belgique, il s'était rendu à Londres et avait été condamné, toujours pour le même motif, à 5 ans de hard labor. On le retrouvait ensuite à Lyon, où il avait la réputation d'être anarchiste et faux-monnayeur. Et c'est dans cette ville qu'il avait fait la connaissance de Bonneau. Dès le lendemain, le juge d'instruction, M. Gilbert, le soumettait à un premier interrogatoire. Belloni lui déclarait avec une tranquillité apparente et même non sans une certaine ironie, « n'ai connu l'affaire de la rue d'Ordonnère que par les journaux. Quant à ce paquet, voilà si comment les choses se sont passées. Dimanche dernier, je me promenais boulevard de Clichy lorsque je rencontrais un camarade que je connais seulement sous le nom de Charles et dont j'avais fait la connaissance à Lyon, il y a 2 ans, au cours d'une réunion libertaire. Charles portait un paquet, il me dit. Oh, je suis extrêmement embarrassé. J'ai une course urgente à faire et ce paquet me gêne. Comme cela m'ennuie de le laisser dans un café. Bon, tu serais bien aimable de me le porter à la consigne de la gare du Nord. Demain, trouve-toi ici à la même heure et rapporte-moi mon paquet. J'avais rendez-vous avec un autre ami nommé Roger Rodriguez à la place Pigalle. Quelques instants plus tard, je quittais Charles et je prenais le métro pour retrouver Rodriguez. Nous sommes partis ensemble porter le paquet à la gare du Nord, et comme je vous l'ai dit, je devais aller le chercher le lendemain pour le reporter à Charles. Mais rien d'autre à déclarer. Après avoir fait remarquer à Belloni toute la fragilité de son histoire, M. Gilbert s'efforçait de le faire parler. Mais Belloni refusait de donner de plus amples éclaircissements au magistrat, qu'il inculpait de complicité dans la tentative d'assassinat, suivie de vol dont avait été victime l'encaisseur Cabi. Quelques instants après, M. Gilbert recevait de Lille un télégramme lui annonçant que Lecoq venait d'être arrêté chez sa maîtresse et qu'après avoir été conduit au bureau de la brigade mobile, il avait déclaré se nommer Léo Rodriguez, être né à Paris et qu'il avait exercé la profession de camelot. C'était un jeune homme de taille moyenne, brun, aux yeux noirs, perçant et portant une petite moustache. Une perquisition opérée au domicile de son ami, qui avait également été arrêté, faisait découvrir dans sa valise 1 kilogramme de fausses pièces de 10 francs. Un sac renfermant 700 francs en argent, en or et en billets de banque. Un revolver et un casse-tête, ainsi qu'un certain nombre de lettres, où il revenait à plusieurs reprises les noms de Garnier, Garoui, etc., etc. Mis en présence de sa maîtresse, il s'écriait « Oh, je sais ce qui m'attend, je suis coupable !» Et désignant Anne-Marie Lecoq, il ajoutait « Mais celle-ci n'a rien fait, elle est complètement innocente, elle ne sait rien du tout de mes actes !» Et comme il s'avançait vers elle pour l'embrasser, un inspecteur lui barra le chemin. Et comme elle éclatait en sanglots, Rodriguez fit « Pleure pas, ma pauvre petite, tu tarderas pas à être mise en liberté. » Le jour même, il était transféré de Lille à Paris. M. Gilbert procédait aussitôt à son interrogatoire. Naturellement, Rodriguez prétendit qu'il n'était pour rien dans l'attentat de la rue Ordonnère, mais cependant les charges s'accumulaient contre lui. Non seulement Anna Lecoq s'était laissé aller à faire au juge d'instruction de Lille certains aveux plutôt compromettants pour son ami, mais M. Join, au cours d'une enquête très serrée, avait encore appris que les titres volés à Cabi avaient été envoyés à Amsterdam, mais que, n'ayant pu les négocier, les bandits avaient chargé Belloni d'en écouter une partie, c'est-à-dire ce qu'on avait trouvé dans le paquet déposé gare du Nord. Belloni, soit qu'il fût dans l'impossibilité d'opérer lui-même, soit qu'il préférât se garder à carreau, avait eu recours aux bons offices de Rodriguez, qui, en sa qualité de faux-monnayeur, était en rapport avec des gens qu'il fallait pour opérer cette transaction. Muni de ces renseignements, M. Gilbert décidait de confronter Rodriguez et Belloni. Rodriguez, suivant l'argot policier, s'était décidé à se mettre à table, c'est-à-dire à entrer dans la voie des aveux, espérant sans doute ainsi atténuer la responsabilité qu'il avait encourue et éviter la condamnation à mort qu'il redoutait par-dessus tout. Et il faisait à M. Gilbert les confidences suivantes. Je me trouvais à Lille où j'étais en train de fabriquer de la fausse monnaie lorsque Belloni, que j'avais connu autrefois en Belgique, vint me demander de lui prêter de l'argent pour qu'il puisse se rendre à Amsterdam chercher un paquet de titres volés à l'encaisseur Cabi et qu'il s'agissait d'écouler discrètement. Je lui fis l'avance qu'il désirait et quelques jours après, Belloni revenait avec les titres. Il me demanda si je voulais m'occuper de cette affaire. J'acceptais et nous partîmes pour Paris. Arrivé là, Belloni me conduisit dans un hôtel meublé du quartier Caulaincourt. Dans une chambre, je me trouvais en face de deux hommes que je connaissais déjà, Bonneau et Garnier. Comme il n'avait aucune raison de se gêner avec moi, Ils me racontèrent comment ils avaient réussi leur coup de la rue ordinaire. C'est Dieudonné et moi qui vont tirer sur le garçon de recette, déclarait Garnier. Et c'est moi qui ai réglé le compte du flic de la rue du Havre. Comme en ce moment, apercevant sur la cheminée plusieurs Brownings, j'en prenais un machinalement, Bono s'écria « Oh, joue pas avec ces outils-là! Prends garde qu'il t'arrive le même accident que ce pauvre Sorrentino. » Sorrentino? Mais oui, appuyait Bono. Tu sais bien, celui dont on a retrouvé le cadavre dans un fossé de la grande route près du lieu saint. Et Bono m'expliqua qu'étant parti avec Sorrentino pour le travail, son ami s'était blessé maladroitement en jouant avec son Browning. Que faire? Demander du secours? Oh, cela pourrait devenir dangereux. Aussi Bono n'avait-il pas hésité, il avait achevé son camarade. La vérité était que, pour l'instant, le gredin ainsi que son ami Garnier se trouvaient à court d'argent. Ainsi fus-je accueilli par eux comme un sauveur. Et le lendemain, je me mettais en rapport avec un intermédiaire qui me prit quelques titres. Nous allons continuer nos transactions et nous avons été arrêtés. À la suite de ces déclarations et avant de procéder à la confrontation qu'il méditait, M. Gilbert interrogeait séparément à son tour l'inculpé Belloni. Celui-ci, ayant appris que Rodriguez avait cassé le morceau, reconnut à son tour qu'il avait connu Bono à Lyon 2 ans auparavant et que l'ayant rencontré le 1er mars dernier à Paris, celui-ci lui avait demandé d'aller à Amsterdam chercher des titres. « Il me disait, raconta-t-il, que ceci me serait remis à mon arrivée par un camarade que je reconnaîtrais à cette particularité qu'il aurait à la main le petit Parisien. Je devais de mon côté porter le même journal bien en évidence. » En descendant du train, je fus abordé par un jeune homme qui tenait en effet comme moi le journal en question. Il me demanda si je venais de Paris et si j'avais vu des amis. Lui ayant répondu affirmativement, il me passa un paquet qui contenait les titres et s'éloigna rapidement. Je revins à Paris le soir même. Le lendemain matin, mercredi 10 mars, à 7 h, j'avais rendez-vous avec Bono à la station du métro Politain, place de la Nation. J'y fus exact. Je rendis compte de ma mission et remis le paquet qui m'avait été confié. Et jusqu'à la fin de la semaine, je revis chaque jour Bono en des endroits différents. Une fois notamment, je le retrouvai au bois de Vincennes. Octave Garnier l'accompagnait. Le samedi, Bono ne vint pas seul au rendez-vous. Un homme de mise correcte l'accompagnait, mais ce dernier demeura à quelque distance. « Regarde-le bien, » me dit Bono en désignant l'inconnu. « C'est le financier. Il est acheteur des titres pour 2 500 francs. Tu les lui porteras demain au café Botrel, boulevard de Rochechouart. Souviens-toi qu'il doit payer d'avance. » Le lendemain, je trouvai le financier à l'endroit indiqué. Je lui fis voir les titres, mais notre client n'avait que 500 francs sur lui. Je lui remis qu'une partie des valeurs. Il me dit qu'il aurait les 2 000 francs complémentaires le lendemain. Nous prîmes un nouveau rendez-vous. Je portai le paquet contenant ce qui restait de titres à la consigne de la gare du Nord, puis je me rendis sur rue Cordeau où Bono m'avait dit de venir le rejoindre. « Rodriguez était avec vous, » interrompit M. Gilbert. « Vous l'aviez pris en passant à Lille, à votre retour de Hollande ?» Oui, Rodriguez était en effet avec moi quand je suis allé à la gare du Nord, mais je ne l'ai pas ramené de Lille. Je vais donner rendez-vous à Paris parce que j'avais l'intention de l'amener avec moi, à Londres, où sa connaissance de la langue anglaise m'aurait facilité le placement d'appareils automatiques. Mélanie était beau joueur. Il ne chargeait point son compagnon, qui pourtant n'avait pas ménagé. M. Gilbert n'insista pas et invita l'inculpé à lui dire ce qui se passa à rue Corteau. Bien, sur les 500 francs que j'avais touchés, déclarait l'inculpé, j'ai remis 100 francs à Bono, que j'ai trouvé en compagnie de Garnier. Et on a parlé du crime de la rue Ordinaire, insinua le juge d'instruction. Oh, pas le moins du monde, il n'en a pas été question. Notre entretien n'a porté que sur les titres. Monsieur Gilbert décidait alors de confronter Rodriguez et Belloni. Le greffier leur donnait lecture des procès-verbaux de leur interrogatoire. Belloni déclarait « Oh non, je persiste à affirmer qu'il est faux que Bonneau et Granier m'aient parlé de la rue ordinaire. » Mais Rodriguez rétorquait « Mais moi je maintiens qu'ils en ont parlé. » Et se tournant vers Belloni, lui dit « M'en veux pas de ce que je t'ai dit, ce n'est pas pour te faire avoir des embêtements. J'ai avoué parce que cela ne m'aurait pas avancé de raconter des blagues, au contraire. » Et il ajouta avec force « Mais sois tranquille, je ne dirai rien de plus. » Comme Belloni gardait le silence, Rodriguez fit « Tu m'en veux pas au moins, tu me pardonnes. » « Mais je te pardonne, » dit enfin Belloni. La confrontation était terminée. Le soir même, la lettre suivante parvenait à M. Xavier Guichard. « Depuis que par votre entremise, la presse a mis ma modeste personne en vedette, à la grande joie de toutes les concierges de la capitale, vous annoncez ma capture comme imminente. Mais, croyez-le bien, tout ce bruit ne m'empêche pas de goûter en paix toutes les joies de l'existence. » Comme vous l'avez fort bien avoué à différentes reprises, ce n'est pas grâce à votre sagacité que vous avez pu me retrouver, mais bien grâce à un mouchard qui s'était introduit parmi nous. Soyez persuadé que moi et mes amis, nous saurons lui donner la récompense qu'il mérite, ainsi d'ailleurs qu'à quelques témoins par trop loquaces. Et votre prime de 10 000 francs offerte à ma compagne pour me vendre, quelle misère pour vous! Si prodigue des deniers de l'État. Décuplez la somme, messieurs, et je me livre pieds et poings liés à votre merci avec armes et bagages. Vous l'avouerai-je, votre incapacité pour le noble métier que vous exercez est si évidente qu'il me prit l'envie, il y a quelques jours, de me présenter dans vos bureaux pour vous donner quelques renseignements complémentaires et redresser quelques erreurs, voulues ou non. Je vous déclare que Dieudonné est innocent du crime que vous avez bien que j'ai commis. Je dément les allégations de Rodriguez, moi seul suis coupable. Et ne croyez pas que je fuis vos agents, je crois même ma parole que ce sont eux qui auront peur. Je sais que cela aura une fin dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont dispose la société et moi. Je sais que je serai vaincu. Je serai le plus faible, mais j'espère bien faire payer cher votre victoire. En attendant le plaisir de vous rencontrer, Garnier. » Nous verrons par la suite que Garnier devait tenir ses sinistres promesses. Immédiatement, M. Bertillon comparait les empreintes contenues dans cette lettre avec celles de l'affiche anthropométrique du signataire de cet extraordinaire et cynique message, et il constatait que c'était bien les empreintes de Garnier et que l'écriture de la lettre était semblable à celle d'autres spécimens d'écriture que possédait le service d'identité judiciaire. Ces menaces abominables allaient être suivies aussitôt d'exécution. La nuit suivante, M. Guy Toumassin, chauffeur au service de M. Palmas, rentier habitant 6 bis rue d'Épronil à Chatou, et qui couchait dans une chambre située au-dessus du garage, était réveillé par les aboiements réitérés de son chien. Entendant un bruit suspect du côté de la porte de la remise, il se levait, prenait son revolver, et à travers une petite lucarne, il regardait dans la rue. Apercevant deux individus qui étaient en train de cambrioler le garage, il n'hésita pas à faire usage de son arme. Mais comme il les distinguait à peine dans l'obscurité, il ne les atteignit pas. Alors un des gredins, sortant une lampe électrique de sa poche, en braqua le faisceau lumineux sur M. Toumassin et se mit à tirer plusieurs coups de pistolet dans sa direction sans l'atteindre davantage. Tandis que le chauffeur s'en allait chercher un fusil de chasse chargé qui se trouvait dans sa chambre, les voleurs en profitaient pour disparaître. Cette fois, ils avaient manqué leur coup. Immédiatement, la Sûreté Générale déléguait plusieurs inspecteurs de la brigade mobile aux fins d'enquête. Les policiers recueillaient le témoignage d'un garde-vigile, M. Albert Sauchet, qui leur fit la déclaration suivante. Chargé de surveiller l'arrivée des trains pour reconduire à domicile les personnes dont j'ai la garde, je me trouvais à 1h10 à la station du passage à niveau de la rue Lannelongue, lorsque j'entendis une douzaine de coups de feu qui semblaient venir de la rue du Presnil. Je partis aussitôt dans cette direction avec un employé de la gare. Nous aperçûmes près de l'église un homme de grande taille, brun, rasé, vêtu d'un long par-dessus gris et coiffé d'un chapeau melon. Il se dirigeait vers le pont de la Seine, et au même moment, deux autres hommes apparurent. Ils étaient tous deux aussi de haute taille, l'un était coiffé d'un chapeau melon et l'autre d'une casquette. Ils couraient très vite, et nous ne pûmes pas distinguer s'ils avaient pris la direction du pont ou de Crosby. Le témoignage d'un déménageur habitant 58 rue de Rueil à Nanterre, M. Klein, allait apporter de nouvelles et intéressantes précisions. Dans la nuit de mardi à mercredi, déclarait-il, comme je ramenais ma voiture à Paris, je croisais une voiture de maraîcher. Au même moment, une auto surgit. Elle venait de Chatou à toute vitesse et je me demande même comment le conducteur put freiner à temps et éviter une rencontre. Je ne pourrais pas vous dire comment était cette voiture, mais ce que je puis vous certifier, c'est que ses phares et lanternes étaient éteints. Dès qu'elle fut arrêtée, le chauffeur, un jeune homme de 25 à 30 ans, coiffé d'une casquette et portant des lunettes, sauta à terre et se mit à m'injurier grossièrement. Et de l'intérieur de la voiture, une voix impérieuse lui lança en allemand « Monte vite qu'on s'en aille !» Ce dernier détail frappa beaucoup M. Guichard, car il n'était pas sans savoir que Bonneau parlait l'allemand d'une façon parfaite. Enfin, M. Restelot, restaurant et tabac à Chatou, qui avait vu passer l'auto, ayant sous les yeux les photographies des bandits non encore arrêtés, déclara formellement reconnaître dans celle de Karoui le chauffeur de l'étrange véhicule. Mais ceci n'était qu'une alerte. Les bandits tragiques n'allaient pas tarder, en effet, à tracer, avec le sang de leurs victimes, l'une des pages les plus effrayantes de l'histoire du crime.